Chapitre 8. Le demi-jour trompeur engendré par la tempête céda bientôt la place à un véritable crépuscule. La nuit tomba rapidement sur les immenses pins secoués par les bourrasques. Le blizzard recouvrait si bien les arbres d'un manteau d'hermine que peu de neige s'accumulait à leurs pieds sur le tapis d'aiguilles. Constamment privée de soleil, la végétation était maigre dans la forêt, et Tom Buckle avançait d'un pas sûr, à défaut de pouvoir marcher vite. Il n'était pas serein pour autant. Tant qu'il ne serait pas arrivé à Crystal Creek, il ne pouvait savoir s'il avançait dans la bonne direction, et la rivière ne lui apparaissait toujours pas. Tout en ayant le sentiment de se diriger vers le sud-est en direction de l'autoroute, il n'avait aucun moyen de se repérer. Il avait entendu dire que la mousse poussait essentiellement sur les troncs du côté nord, ou encore que les pins avaient tendance à pencher vers le soleil du matin, car les montagnes les plongeaient dans l'ombre l'après-midi. Mais il n'avait rien d'un Davy Crockett. L'angoisse de tourner en rond l'étreignait, et il n'osait pas allumer sa torche, de peur de voir apparaître ses propres traces s'il tournait en rond. Sans être aveugle dans cette forêt sombre, il distinguait à peine à quelques mètres de distance. Il avait l'impression d'avancer au milieu d'une armée de géants, prêts à fondre sur lui, mais il lui fallait progresser le plus possible avant d'utiliser sa torche, de peur que Wayne Hollister soit tout proche. Il vit soudain se dresser devant lui une silhouette qui ne devait rien à la nature. Il régla la lampe au plus faible, s'enhardit à l'allumer, et se retrouva face à un abri en pierre dépourvu de fenêtres de 2,50 m de côté, trop petit pour servir d'habitation. Les quatre pans de la toiture se rejoignaient au sommet en formant ce qui ressemblait à un pic à glace planté au milieu d'un batteur à eux. Sur chacun des pans se dressait une vasque conique d'un mètre de diamètre, au centre de laquelle dépassait un cône lisse. Les intestins de Tom se nouèrent, et le frisson qui lui parcourut l'échine n'avait rien à voir avec le froid ambiant. De l'intérieur du curieux bâtiment s'échappait un bruit sourd et régulier, et il crut identifier le halètement d'un groupe électrogène. Les vasques du toit étaient probablement des antennes paraboliques, et il crut deviner à quoi servait cet abri. Encore fallait-il s'assurer qu'il avait raison. Il posa la lampe tactique sur le sol, de façon à éclairer la porte, et tira le pistolet de la poche de cuisse de sa combinaison. Il disposait de 10 balles seulement, mais 2 ou 3 d'entre elles suffiraient lorsque surviendrait la confrontation avec Hollister. À moins d'abattre son adversaire dès le début, il n'avait aucune chance d'en réchapper. Sans se soucier de provoquer des ricochets ou de recevoir un éclat, il visa le bois de la porte entre la serrure et le chambranle et enfonça la détente à 3 reprises. L'écho des détonations se répercuta longuement dans les bois paralysés par le froid. Il donna un premier coup de pied dans la porte en faisant voler des échardes de bois, tandis qu'un cliquetis métallique s'échappait de la serrure. Il recommença, et le battant céda à la 3e tentative. Une bouffée de chaleur s'échappa du bâtiment à l'intérieur duquel brillaient des dizaines de diodes vertes, rouges et blanches. Il chercha à tâtons l'interrupteur, et la lumière éclaira des machines mystérieuses alignées le long de 3 des murs de la hutte. Parce qu'il était l'un des individus les plus riches de la planète, Wainwright Hollister comptait forcément de nombreux ennemis. Sa paranoïa naturelle le poussait même à se sentir menacé par l'ensemble de la société qui l'entourait, et Tom crut deviner à quoi servait ce lieu. Au cas où une équipe de tueurs aurait décidé d'investir sa propriété, l'ennemi commencerait par se tapir au cœur de la forêt avant d'attaquer la résidence. Cet abri était très certainement une station d'écoute, capable d'analyser les bruits qui seraient venus troubler la rumeur de la nature afin d'alerter les équipes de sécurité du ranch. La hutte devait avoir des petites sœurs disséminées à travers les bois. Hollister n'avait pas besoin de suivre les traces de sa proie dans la neige, ni même de guetter dans la tempête la lueur d'une torche. Il lui suffisait d'interroger ses machines pour savoir très précisément où se trouvait Tom Buckle. Ce dernier était quasiment certain qu'une alarme avait résonné à l'instant où il forçait la porte du local, de sorte que Hollister était déjà au courant de l'intrusion. À cet instant, le chasseur s'approchait du gibier. Le pistolet serré dans son poing droit, Tom ramassa la torche de la main gauche et s'éloigna au milieu des sapins. Ses yeux avaient perdu leur accoutumance à l'obscurité, mais il n'avait plus aucune raison de garder la lampe éteinte. Il régla néanmoins l'intensité au minimum. La densité des bois empêchait que quiconque puisse détecter sa présence à distance, mais Hollister ne devait pas être loin. La présence des énormes troncs limitait la possibilité qu'il soit abattu en pleine course, quand bien même le milliardaire disposerait d'une carabine automatique. Les poches de neige durcies par le froid et l'épais tapis d'aiguilles compliquaient la progression de Tom, mais ce dernier devait avant tout se méfier des branches basses, qui, sans être nombreuses, présentaient un danger certain. Il courait désormais au hasard, le plus loin possible de la hutte, en quête d'un terrain à découvert où l'usage de la torche ne lui serait plus nécessaire. Avec un peu de chance, les prairies de Hollister étaient dépourvues de stations d'écoute. La voix du milliardaire tournait en boucle dans sa tête pendant qu'il courait.
Cela ne m'empêche pas de me montrer équitable, Tom. J'entends vous laisser une chance de survivre lors de la petite épreuve que je vous réserve.
Un fond de vérité tapissait-il le tissu de mensonge que lui avait servi Hollister? Tout dépendait de ce que celui-ci entendait par équitable et chance. Hollister était à l'évidence aussi équitable que ces araignées venimeuses capables de paralyser leur proie avant de les dévorer vivantes. Quant à la chance, il existait un gouffre entre une chance sur 100 et une chance sur 1000.